60. 6h11. Leïli alluma une cigarette sur le balcon. Le soleil se levait incognito, protégé d'un rideau de cumulus gommant la ligne d'horizon. La petite fumée grise qu'elle souffla stagna à la hauteur de son nez, comme un micro-nuage de pollution, sans aucun vent pour la pousser. Ni vague ni écume, seulement un brouillard froid, humide et salé. Même la mer semblait mal réveillée. Du 7e étage de son appartement des Aigues Douces, Leïli apercevait quelques ombres marcher en bas des immeubles. Parmi elles, elle repéra Guy, col relevé, bonnet enfoncé jusqu'aux oreilles. Elle le suivit des yeux, le regarda traverser le parking, puis l'avenue Mistral, pour aller rejoindre d'autres fantômes du matin sous l'arrêt du bus 22. Direction Martigues-Figrolles. Celui qu'elle prendrait dans quelques minutes. Un jour, peut-être, ils feraient la route ensemble, quitteraient le même lit, se succéderaient sous la même douche, partageraient la même table de petit-déjeuner, fermeraient ensemble la porte pour prendre l'escalier, marcheraient côte à côte jusqu'au bus, l'attendraient en silence, s'embrasseraient lorsque Guy descendrait à Ray Caravelle alors qu'elle continuait encore 5 arrêts. Leïli observait toujours avec mélancolie ces familles qui se séparent tendrement au pied des transports en commun ou sur le parking d'une école pour mieux se retrouver le soir. Un jour, peut-être. Pas ce matin. Guy était redescendu dans son appartement vers 2h du matin. Elle lui avait expliqué qu'il ne pouvait pas rester dormir, qu'elle devait emmener Tidiane à l'école. Il avait compris. Lui aussi bossait. Petite nuit. Grande journée. Elle regarda le bus 22 avaler Guy dans la même bouchée qu'une bonne dizaine d'autres travailleurs, 2 poussettes et quelques collégiens, puis disparaître. Leïli était en retard. Elle n'arrivait pas à s'extraire de cette torpeur des matins où l'esprit tourne en rond. Elle consulta une fois de plus son téléphone portable. Toujours aucune nouvelle de Bambi, toujours aucune nouvelle d'Alpha. Elle leur avait pourtant laissé un message dès qu'elle s'était réveillée. Elle s'inquiétait. Elle continuait de ruminer les menaces de Jourdain Blanc-Martin. Son instinct lui soufflait qu'elle n'était qu'un pion à sacrifier dans son vaste empire construit comme un jeu de société. À qui pouvait-elle faire confiance? Dans sa poche, sa main gauche roulait la carte de visite du jeune flic croisé hier au commissariat. Celui-là, au moins, avait l'air sincère. Comme un éduc en début de carrière. Pas encore aussi désabusé que ses collègues, celui à l'allure de bulldog et l'autre à l'accent marseillais. Elle écrasa sa cigarette. Accélérée maintenant. Elle prenait son service à l'Ibis dans 1 heure. Ce serait un comble d'être en retard, alors que jamais elle ne s'était rendue à un job avec autant d'impatience. Il lui tardait déjà d'écouter les extravagants récits de Ruben, de converser avec Savorgnan et tous les autres réfugiés des chambres des secrets. Elle enfila le gilet posé sur une des chaises du salon. Sur le buffet, un journaliste muet présentait les actualités. La télé était allumée en sourdine, et le faible son couvert par les éclats de rire de Fun Radio que Camilla, à l'étage du dessous, écoutait à fond. Leïli s'avança pour éteindre l'écran, indifférente à ce journaliste qui devait commenter le trafic matinal, à en juger par les fils immobiles de voitures projetés derrière lui. Le bandeau continu d'information, seul mouvement sur l'écran, semblait tourner aussi indéfiniment que tourne le monde. Le regard de Leïli attrapa l'une des phrases au hasard, lut chacun des mots avant qu'il ne disparaisse à gauche de l'écran pour être remplacé par une nouvelle dépêche. Nouveau drame en Méditerranée. 26 migrants béninois noyés au large des côtes marocaines. D'autres informations continuaient de défiler. Le monde s'était arrêté de tourner. Ruben était assis dans la grande salle du petit-déjeuner de l'Ibis, seul, tel un client oublié là, abandonné, attendant d'être débarrassé. En entrant, Leïli croisa son regard absent, ses yeux rougis, ses mains tremblantes. Le gérant de l'hôtel avait vieilli de 10 ans. Noura s'était assise à une table plus loin, prostrée, les mains accrochées à un téléphone portable. Tout était silencieux dans l'hôtel. Quelques clients patientaient au comptoir pour régler, attendaient un moment, puis partaient, sans rien dire. Comme lorsqu'on croise un cortège funéraire. On se tait subitement et on change de trottoir sur la pointe des pieds. D'autres clients, après avoir vainement espéré que Noura ou Ruben se lèvent, emportaient croissants, céréales en sachet et expresso en gobelet, sans oser les consommer sur place, affamés et gênés. Ils fuyaient ventre vide et mains pleines, sans doute submergés par la mauvaise conscience de leur dérisoire pillage. Petit à petit, les derniers clients disparaissaient. Leïli fit quelques pas vers Ruben. Dans son cerveau, le bandeau continuait de tourner en boucle. Nouveau drame en Méditerranée. 26 migrants béninois noyés au large des côtes marocaines. Pendant toute la route, elle s'était persuadée qu'il n'y avait qu'une faible probabilité pour que ce fait divers concerne Savornian, Zaherin et les autres occupants des chambres des secrets. Le Bénin compte 10 millions d'habitants. Des milliers de réfugiés, une diaspora répartie dans toute l'Europe. Pourquoi imaginer le pire? Quand l'actualité accouche d'un drame, quel égocentrisme morbide vous pousse toujours à penser qu'il ait pu toucher quelqu'un que vous connaissez? Dès qu'elle était entrée dans l'hôtel, sans que Ruben l'accueille sur le seuil, elle avait compris. Leïli s'assit face à Ruben. Le gérant semblait incapable de prononcer un mot. Elle ne le brusqua pas. Elle regardait partout autour d'elle, espérant voir surgir Savornian ou Zaherin ou Whisley. Ce fut Noura qui vint vers elle. Elle se contenta de poser son téléphone portable sur la table, puis d'ouvrir sa boîte mail et de cliquer sur un fichier audio attaché. Malgré le haut-parleur, le son était mauvais, presque inaudible, entrecoupé de parasites. La voix était faible, comme essoufflée. Chaque mot, chaque phrase ne succédait à l'autre qu'après un long silence, comme on le fait quand on récite une prière. Une prière récitée trop tard, sans espoir.
Rami, je suis Rami, l'ancien chef du village de Dogbotota. Faites circuler ce message. Ils nous ont recueillis, dans un hôpital militaire, Isla de Isabelle II, je crois. La chaloupe s'est retournée, presque aussitôt après qu'on soit monté. Que l'albercane nous ait laissé. On n'a pas tenu 5 minutes. Vague trop haute, les téléphones passaient. On a tout de suite appelé. On voyait les côtes, les îles Afarines, a hurlé Keivan. Ce gamin connaissait par cœur la carte du monde. Une base militaire espagnole. L'espoir. On a appelé. On a hurlé. Certains se sont accrochés à la chaloupe retournée. D'autres, à rien. D'autres, aux autres, avant que les vagues nous dispersent. Les Espagnols disent qu'ils sont arrivés vite. Le plus vite possible. Lo más rápido. 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 Ils répètent ça. Ils ont l'air choqués, eux aussi. Ils nous comptaient en nous tirant sur la frégate. Uno. Dos, tres, cuatro. Ils nous donnaient un numéro. Ils hurlaient. Quantos? Quantos? Avec leurs projecteurs, ils continuaient de fouiller la mer. J'ai été le numéro 5. Fatima, ma femme, la numéro 8. Quantos? Quantos? Ils criaient toujours plus fort. Treinta y cinco, j'ai répondu. Après Fatima, ils ont encore repêché un jeune garçon. Le numéro 9. Le dernier. Ils ont cherché encore, près d'une heure. Puis ils ont abandonné. Ils ont repêché 9 naufragés sur 35. Je crois qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. C'est facile pour moi de leur dire merci. Ils m'ont sauvé. Ma femme aussi. Pour vous, ils seront à jamais maudits. Ils sont retournés en mer. Quand la mer s'est calmée, dès que le soleil s'est levé, cherchez les corps. Certains s'étaient déjà échoués. Au matin, les côtes semblaient encore plus près, à peine 1 kilomètre. Je sais que c'est plus cruel encore de le préciser. Excusez-moi. Je parle trop. J'enfile les mots. pour retarder le moment où je devrais donner les noms. On se connaissait tous. On venait de la même région. On vivait ensemble depuis 3 mois à attendre de passer. Une communauté. Jusqu'au bout, il faut me croire, on s'est accrochés. Tous ensemble, au même rêve. C'est la mère qui a fait le tri. Pas les militaires espagnols. C'est la mère.
Le message devenait alors inaudible, saccadé, comme quand les mots sont des balles qui sortent d'un pistolet. On entendait des pleurs, des mots indistincts en espagnol et en fond. Puis une voix féminine se chargea de la suite du message. Fatima, sans doute. Une voix calme, délicate.
Mes amis, mes chers amis, puissiez-vous un jour me pardonner d'être la messagère de la mort.
Elle égrena ensuite 26 prénoms, ceux des disparus, lentement, articulant pour éviter tout sinistre malentendu. Plusieurs fois, Leili sursauta. Chaque fois, la douleur s'enfonçait plus profond dans son cœur.
Kaimile et Ifra.
Deux des cousins de Zaherin.
Naïa, la fiancée de Whisley. Babila, Keivan et Safi.
La femme et les enfants de Savornian. Où sont-ils? Demanda doucement Leili à Ruben. Où sont Savornian, Zaherin, Darius, Whisley?
Je ne sais pas.
La voix de Fatima continua d'énoncer quelques prénoms, puis s'arrêta, net. Le message se coupa après l'annonce de la dernière victime, sans même que Fatima ajoute un « Dieu vous bénisse ». On entendit seulement derrière elle quelques mots en espagnol, sans doute des militaires.
Uno, dos, tres, cuatro.
Sans savoir s'il comptait les vivants ou les morts. Leili rendit le téléphone à Noura. Jamais le regard de la jeune fille ne lui avait paru aussi noir. Leili, les jours précédents, y avait lu de la jalousie, du désir, de la colère. Elle n'y lisait plus que de la haine. Chante, murmura Leili. Chante, Noura. Chante pour eux. Noura hésita, puis entonna, presque en sourdine, une mélodie apaisante qu'elle susurra du bout des lèvres, dans une langue que Leili ne connaissait pas, une berceuse tendre. Cela sembla durer des heures. Cela aurait pu durer des heures. Le coton de la voix de Noura avait séché les yeux de Ruben. Quelques clients retardataires s'étaient arrêtés pour écouter. La magie opérait. Le téléphone de Leili la poignarda. Une sonnerie stridente. Leili se précipita sur l'appareil. Alpha? Bambi? Savornian, peut-être? Noura, qui chantait depuis de longues minutes, paupières fermées, les ouvrit et la fusilla du regard. Leili s'en fichait. Un numéro inconnu s'affichait. Elle répondit.
Madame Mal!
Hurla une voix féminine au bord de l'hystérie.
Madame Mal, venez vite!
Leili connaissait cette voix, mais n'arrivait pas à l'identifier.
« Madame Mal !»
continua la voix.
« C'est Camilla, votre voisine du dessous. Ils sont en train de tout casser chez vous. Ils ont défoncé la porte à coups d'épaule. Je suis montée voir, mais ils sont deux, et ils sont armés. Je n'ai pas voulu prévenir la police. Je suis enfermée chez moi. Je crois qu'ils sont en train de s'en aller. J'ai peur, Madame Mal. Venez vite, j'ai peur !»
Camilla criait tellement que Ruben avait tout entendu. Il s'était déjà levé. « Je vous accompagne, Leili. On y va. » Lorsque Leili et Ruben parvinrent aux Aigues Douces, les deux hommes avaient déjà quitté les lieux. Le quartier ne semblait ni plus ni moins inquiet que d'habitude. Les boîtes aux lettres ni plus ni moins défoncées, la cage d'escalier ni plus ni moins vandalisée. Camilla les attendait dans l'escalier.
« Ils sont repartis. Ils sont restés à peine 5 minutes. Qu'est-ce que... »
Elle s'apprêtait sans doute à déverser un torrent d'insultes, mais aperçut Ruben et sembla impressionné par sa prestance. Il avait enfilé un long manteau, un Stetson noir en feutre et, comme Layli, dissimulait ses yeux rouges derrière des lunettes de soleil. Camilla prit peur. Après les deux déménageurs, le nettoyeur.
« Je ne suis pas entrée, Madame Mal. Je vous jure. Ils m'ont bloquée sur le palier. Je n'ai pas vu ce qu'ils faisaient. »
Sans répondre, Layli et Ruben gravirent un étage de plus et pénétrèrent dans l'appartement. Presque immédiatement, Layli comprit qu'on ne lui avait rien volé. D'ailleurs, qui avait-il à voler ici à part la télé et l'ordi? Les visiteurs ne les avaient pas touchés. Tout le reste avait été balayé de quelques grands gestes de main, sa collection de chouettes, ses livres, ses lunettes, éparpillés sur le sol, tout comme les matelas renversés, les habits des enfants sortis de leurs valises et éparpillés.
On ne m'a rien volé, je crois.
Quelques chouettes en plâtre s'étaient brisées, mais la plupart des objets étaient intacts, comme si les visiteurs n'avaient même pas pris la peine de les piétiner. L'appartement semblait n'avoir subi qu'un violent courant d'air. « C'est une menace, » continua Layli. « Une simple menace. » Elle repensait à Blanc Martin, son chantage. Elle imagina qu'il était le commanditaire de cette visite, pour lui faire peur, pour lui signifier qu'il s'impatientait, que si Bambi ou Alpha la contactaient, elle devait parler. À lui ou à la police? Tous complices? Ruben s'assit sur le canapé et lui fit signe de faire de même. « Que cherchait-il, Layli ? » demanda-t-il d'une voix apaisante. Layli lui fut reconnaissante de ne pas inventer une autre anecdote de cambriolage d'appartement en Birmanie ou en Polynésie, de se contenter de l'écouter. « Mes enfants. Ils cherchent mes grands-enfants. Ils sont partis, Layli. C'est fini. Ils sont partis. » Layli marqua un long silence. Elle ramassa une chouette qui avait roulé à ses pieds, une chouette en verre qui, bizarrement, n'avait pas explosé en tombant. « Ils vont revenir. Pas tout de suite. Mais ils vont revenir.
Pourquoi ?»
Layli sourit, ramassa une autre chouette en bois sculpté et la posa à côté de celle en verre. Rien ne presse maintenant, Ruben. Voulez-vous écouter la fin de mon histoire?